Et on va commencer la soirée en remettant cette soirée-là entre les mains de notre Seigneur. Donc, on va prier, baisser nos têtes pour prier. Seigneur notre Dieu, on voudrait élever nos voix vers toi, Seigneur. On te remercie pour cette belle soirée, Seigneur. On te remercie pour Kim, pour Laurie, pour Lucie, Seigneur, leur désir de passer par les eaux du baptême. Et Seigneur, on te remercie pour chaque personne qui est ici, Seigneur, pour assister à cela, Seigneur. Je te prie que tu puisses toucher nos cœurs par les témoignages, par les chants, par le message qui va être apporté, Seigneur, puis que dans toute cette soirée, Seigneur, tu puisses être glorifié. Et c'est en ton nom qu'on te prie. Amen. On va se lever debout et on va chanter un chant qui dit « Ma vie est en toi ». C'est un peu ce qu'ils vont témoigner ce soir, que leur vie est en Jésus. Ma vie est en toi, Dieu, ma force est en toi, Dieu, ma foi est en toi, Dieu, en toi, c'est en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie est en toi, Dieu, en toi, c'est en toi. Je te louerai toute ma vie. Dieu, ma force est en toi, Dieu, ma foi est en toi, Dieu, en toi, c'est en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie est en toi, Dieu, en toi, c'est en toi. Je te louerai toute ma vie, je te louerai de toute ma force. Notre vie est en lui. Tourne à 2,53. Yes. Comme notre vie est en lui, aussi, notre vie sans lui, ça a l'air de quoi? Et j'aime ce chant-là parce qu'il nous, qui fait une belle image, une belle comparaison à un bateau qui est sur l'eau. Puis tout d'un coup, il y a un brouillard, puis il ne voit plus clair. Puis tout d'un coup, à l'horizon, il voit un phare, puis avec la lumière qui brille, même au travers du brouillard. Puis Jésus, au travers de notre vie, c'est ça. Même au travers de n'importe quel brouillard, Jésus, il est là. Puis on voit, on peut se diriger avec sa lumière. See you. 2,93. Tiens, garde-la avec toi. On va continuer avec un si grand miracle que Dieu a fait dans notre vie.
Dieu, quel amour!
Tout de suite au dernier, pour en arrière, à l'ordinateur. Je ne sais pas si j'ai compris. En tout cas, 350. Pour ceux qui... Quand j'ai su que Laurie se faisait baptiser, ben j'ai pas hésité. Il fallait que je fasse le 343. Ceux qui étaient à U-turn en même temps que Laurie savent que c'est celle-là qui a demandé mercredi après mercredi. Mais un beau chant un chant d'amour pour notre Sauveur.
Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne être ailleurs dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour.
On va le faire.
Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu m'as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton
pouvez vous asseoir. Maintenant, j'inviterai Benoît pour les baptêmes.
Premièrement, je suis stressée, puis en plus, j'ai les jambes dans l'eau. C'est vraiment formidable. Je l'ai su en arrivant ici, en fait. Au départ, je pensais être habillée normale, fait que c'est vraiment sympathique. Il me semble que je prends beaucoup de charisme en étant dans l'eau. Fait que vous me direz ce que ça va donner. Premièrement, je commence par une petite question. Je voudrais savoir, parmi les chrétiens, levez la main ceux qui ont des colocs. Bien, en fait, je vais vous apprendre que tout le monde en a parce qu'on cohabite avec Jésus-Christ. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'élabore souvent des théories un peu bizarres, puis ça en fait partie, c'en est une. Moi, en fait, j'ai un coloc depuis le 13 juin 2010. Ce que je pourrais tout simplement vous dire, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer mes péchés puis me donner la vie éternelle, que j'ai placé ma confiance dans lui, puis que, voilà, je pourrais partir direct de même, puis ça aurait fait la job, mais quand même, je me suis pas stressée comme une malade mentale dans les derniers jours juste pour être ici 2 minutes. Fait que je vais continuer encore plus la torture. Hein? Je vais commencer par un petit verset de 1 Jean 5, versets 11 à 12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je trouvais que ça résumait quand même assez bien. Donc, moi, avant, j'étais athée. C'est quand même assez bizarre que je me ramasse dans ce bain-là en disant que j'étais athée. Mais c'est quand même ça. J'étais baptisée catholique un peu comme beaucoup de monde au Québec. C'est plus catholique, hein, finalement, par coutume, parce qu'on allait à l'église juste à Noël. Si l'année passée, quelqu'un m'aurait dit que je me ferais baptiser, écoute, je me serais roulée à terre. J'étais athée, je croyais en rien. Me faire baptiser, j'aurais trouvé ça vraiment bizarre. Puis, je croyais en rien, mais j'étais malheureuse quand même. J'avais beaucoup de problèmes de santé, un trouble d'anxiété généralisé, dépression, parce que j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie. Ça m'a amené à me remettre en question beaucoup à chaque fois parce que j'arrivais pas à me sentir complète. J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Puis même si j'étais infirmière, que je suis supposée de croire aux médicaments, à un moment donné, on se rend compte que c'est pas assez, que ça marche pas. Fait que j'essayais de combler le vide de diverses façons. Évidemment, comme les personnes qui sont pas chrétiennes, je péchais souvent puis fréquemment, puis ça me dérangeait pas. J'avais aucun problème là-dedans. Même que ça faisait mon bonheur. Je me satisfaisais avec ça. Je pensais que ça allait bien comme ça. Mais c'est ça, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie. J'ai eu plusieurs échecs amoureux, des problèmes de famille, des problèmes de santé. Donc, en tout cas, ça allait très bien dans ma vie, comme vous pouvez le constater. Puis, ce qui m'énervait là-dedans, vu que j'ai un trouble d'anxiété généralisée, c'est que je suis bien anxieuse en partant. Puis, j'étais toujours toute seule pour surmonter les épreuves. Peu importe ce qui m'arrivait dans la vie, la seule personne sur qui je pouvais compter, c'était moi. J'avais personne d'autre. Puis, ça paraît pas, mais ça met beaucoup de pression, dépendamment des problèmes d'appartement, n'importe quoi. Il faut toujours juste se fier sur nous. Puis c'est vraiment difficile de gérer ça. Mais ça, c'était avant de vivre en Jésus-Christ. C'était mon introduction. Donc, en fait, ça a commencé que, pour ne pas la nommer Mélissa Langevin, qui est assise là, ça a commencé avec elle, dans le fond. Parce qu'au départ, moi, je savais même pas que ça existait, en fait, être chrétien. Fait que je l'ai eu dans ma classe, là, 2 ans à l'université. Puis elle a commencé à m'en parler parce que ceux qui connaissent Mélissa savent qu'elle ne gêne pas du tout pour parler du fait qu'elle est chrétienne puis évangélisée. Hein. Elle a comme aucun problème là-dedans. Puis elle a un don aussi. Puis elle a commencé à m'en parler. Puis moi, je posais des questions parce que oui, je suis en remise en question. Mais en même temps, je trouvais ça un peu bizarre parce que moi, je ne savais pas vraiment où j'en étais. Ça n'allait pas bien dans ma vie. J'avais beaucoup de problèmes de santé. Puis elle, je la voyais, elle était rayonnante, lumineuse. Elle était super heureuse à me parler de Jésus vraiment. C'était fou de la voir aller. Au début, j'avais même peur qu'elle soit un peu Jesus freak, parce que moi, le seul cours de religion que j'ai eu, c'est de la catéchèse au primaire. Là, ça faisait vraiment longtemps. Quelqu'un qui me parle de Jésus non-stop, je trouvais ça vraiment bizarre, puis j'étais pas habituée pantoute à ça. Puis ça a vraiment cliqué avec elle, finalement. Au début, je trouvais ça vraiment bizarre aussi, le fait qu'une athée puisse si bien s'entendre avec une chrétienne. Je trouvais ça vraiment ironique, en fait, comme situation. Puis ça m'a amené à me poser des questions aussi, à me pencher sur moi. Puis en plus, ce qui est encore plus bizarre, c'est que quand je disais ta religion, c'est que t'es chrétien, elle m'a fait non, moi c'est une relation. C'est ça cette affaire-là. J'arrête pas de dire c'est une religion. Non, non, c'est une relation. Hey, niaise-moi pas, c'est la même maudite affaire. Non, 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 c'est pas ça. En tout cas, ça a pris du temps à comprendre. Maintenant, je l'ai compris, mais sur le coup, je suis comme, qu'est-ce qu'elle a, cette fille-là, de pas normale? Elle est vraiment bizarre. Parce que je connaissais personne d'autre qui parlait de ça. Puis je suis allée voir sur Internet, voir si ça existait, voir si... Puis, ça, j'avais beaucoup de questions par rapport à Dieu. J'ai posé beaucoup de questions. J'y en pose encore énormément aujourd'hui, des questions pas toujours intelligentes, mais en tant que telles, qui sont importantes dans mon cheminement, dans ma foi. Puis elle, pendant ce temps-là, a prié pour que Dieu travaille mon cœur, puis pour y ouvrir des portes. Si je regarde autour de moi, hey, ça a marché. Fait que j'ai rencontré beaucoup de personnes chrétiennes qui me présentaient avant d'être converties. Il y en a beaucoup qui sont ici ce soir. Puis ça me faisait me questionner beaucoup, mais j'observais surtout le monde de voir des jeunes chrétiens en 2010 qui vivent dans leur foi. Moi, ça me jetait à terre carrément parce que, tu sais, moi, ma mère, quand j'étais jeune, elle m'achetait des bonbons, puis c'était comme ma récompense pour aller à l'église avec elle. T'as fait une demi-heure à l'église voir le prêtre parler parce que j'ai essayé ça pour mourir. J'allais au dépanneur après, puis j'avais des bonbons à une scène, puis c'était vraiment cool, mais si j'y aurais pas été sinon, là. Fait que de voir du monde ici qui se levait le dimanche matin, venait 3 heures à l'église volontairement avec le sourire, écoute, j'en revenais juste pas, je trouvais ça vraiment weird. Fait que j'ai commencé à prier. Au début, je savais pas trop comment, puis évidemment, j'ai fait « Mélissa, j'aimerais ça prier », elle fait « Ouais, OK, ben, comment on fait? » Évidemment, quand on ne sait pas comment prier, il faut savoir. Il n'y a pas de formule pour ça, mais moi, j'en avais absolument aucune idée. Fait que j'ai demandé, puis plus le temps passait, je priais de temps en temps. T'sais, j'essayais, il faisait partie de ma vie graduellement, puis j'avais l'impression qu'il m'appelait à lui, qu'il voulait que je sois son enfant. Puis en plus, pour me rassurer, j'en avais parlé à ma mère, parce que j'ai dit vraiment tout. Puis quand j'ai commencé à lui parler du fait que j'étais en remise en question spirituelle, que j'avais rencontré une amie chrétienne, la première affaire qu'elle m'a demandé, c'est pas une secte toujours? L'autre affaire qu'elle m'a demandé, c'est « J'espère qu'il ne faut pas que tu donnes ta paye au complète. » L'autre question d'après, qui a été encore plus savoureuse, c'est « J'espère que tu ne te marieras pas au gourou de votre secte. » Fait que tout ça a vraiment aidé l'anxieuse en moi à avoir confiance, parce que ça a aidé... Non, le pire, c'est que c'est vrai, elle m'a vraiment dit ça. Fait que ça m'aidait vraiment à avoir confiance en moi, puis hein, on s'entend que ça met une fille en confiance, faire dire ça. Fait que j'ai essayé d'expliquer à ma mère un peu c'était quoi le fait d'être chrétien, parce que pour elle, elle aussi qui va à l'église tous les Noëls, elle comprenait pas du tout c'était quoi et pourquoi je voulais m'embarquer là-dedans. Fait que j'ai dit, gars, être chrétien, c'est pas compliqué dans le fond. C'est croire que Jésus est mort pour mes péchés sur la croix parce qu'il m'aimait. Que mes péchés futurs et présents, ben il est mort pour ça aussi, puis que je vais continuer d'en avoir pareil parce que je suis humaine, mais que j'ai confiance en Dieu, c'est mon sauveur. Jésus a une place de choix dans mon cœur. Puis avant, ma vie, elle n'avait pas vraiment de sens. Maintenant, j'en ai un, c'est de vivre pour lui, de l'aimer de tout mon cœur et de lui obéir. C'est d'ailleurs la raison de ma présence ici, parce que sinon, je ne serais pas là. Ma mère, en fait, à l'explication, elle l'a trouvée bien intéressante, mais elle a arrêté de suivre quand j'ai dit « mort sur la croix ». Fait que j'y en reparle une couple de fois, mais tu sais, pour quelqu'un qui va à l'église à Noël, puis quand il y a des enterrements, tu sais, c'était comme vraiment trop pour elle de comprendre ça. Puis elle n'en revenait juste pas que ces changements-là soient arrivés chez moi. Parce que moi, j'étais le genre à me vanter, à dire à tout le monde, gars, je crois en rien, puis je suis bien correcte de même. Puis là, dire que je voulais être chrétienne, avec tout ce qui va avec, la chasteté, puis péché, elle était comme, okay, ça te tente vraiment de faire ça, là? T'as quoi, t'avais rien à faire en fin de semaine, là? Fait que, puis plus ça, le changement fonctionnait à travers moi, je commençais à parler de Dieu beaucoup. J'avais des commentaires, des questions. J'ai même perdu des amis. D'ailleurs, j'ai mis les guillemets sur ma feuille, parce que c'est vraiment des amis avec des guillemets. Vu que je les ai perdus à cause de ça, c'était pas vraiment des amis, finalement. Je vois que tu te marres vraiment. Hein? Merci, t'es ma spectatrice la plus simple. Je te remercie. Mais c'est ça. Puis finalement, le 13 juin, je me suis présentée ici à l'église. Mélissa m'a acheté ma première Bible, elle me l'a dédicacée. Fait que là, finalement, c'est la journée que je suis devenue chrétienne, même si le processus était entamé depuis très longtemps. Finalement, pour vous parler de ma cohabitation avec Jésus, ben c'est pas super facile. OK, il laisse pas traîner de vaisselle sale, il laisse pas le siège de toilette relevé. Tu sais, il est bien cool comme coloc, là. Il fout pas le bordel. Mais en même temps, il a changé ma vie du tout au tout. Fait que, oui, c'est un genre de théorie bizarre que j'imagine, ça va très bien. Fait que, il a totalement changé ma perception de la vie et des épreuves. Mais en plus de ça, il m'a donné la force et le courage pour les affronter. Puis celles qui peuvent se présenter sur mon chemin, ben j'ai confiance maintenant parce que ça va bien aller parce que Dieu est avec moi. Être chrétienne, c'est pas facile. Le monde me dit oh, tu vas voir, quand t'es chrétien, il y a 6 mois, c'est difficile. Puis quand tu te convertis, mais non, pour moi, ça va être super facile. Checkez-moi bien aller. Elle est bonne. Non, ça n'a pas été si facile que ça finalement. Puis Dieu a beau m'aimer beaucoup de tout son cœur, même avant que je sois née, ben, il n'a pas fait d'exception pour ma gentille personne. Fait que non, c'est beau, les téléthons, c'est pas nécessaire. J'accepte les dons en argent. Vous allez voir, il y a un petit panier en sortant. Non, c'est ça, ça va quand même bien. J'ai appris beaucoup de choses dans ma vie de chrétienne depuis maintenant. Puis en fait, je vais vous dire que c'est tout à fait libérateur d'être chrétienne parce que moi qui ai un trouble d'anxiété, avoir le poids, le fardeau sur mes épaules de toujours, ça, il faut que je me fie sur moi, que je ne peux pas me fier sur personne d'autre, c'est difficile. De se dire que tu ne peux pas te fier à personne d'autre parce qu'il y a juste toi qu'il faut que tu te fies dans la vie. Maintenant, je me dis que j'ai quelqu'un d'autre, que gars, fais ce que tu veux. C'est lui qui décide. Ben, écoute, ça, il n'y a même pas de mots pour décrire comment que ça fait du bien de se dire que maintenant, j'ai plus besoin de prendre ma vie en main, j'ai plus besoin d'avoir de fardeau à porter dans ma vie, que c'est Dieu qui est au contrôle de tout ça. Mais par contre, ça, il faut une foi à toute épreuve, puis un amour inconditionnel pour lui. C'est un genre de deal, je trouve que c'est quand même assez équitable. Je vais vous lire Matthieu 22, 36. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, c'est un peu ce que ça signifie. C'est ça, il faut être attentif un peu parce que des fois, on se demande toujours quand ça va pas bien. « Ah, oh, Dieu n'est pas avec nous. Je pense que Dieu n'est pas vraiment là. Finalement, je ne suis pas vrai que je ne suis pas chrétienne dans le fond parce qu'on n'a pas de confirmation. Mais Dieu nous fait des clins d'œil de temps en temps. Avant d'être chrétienne, j'appelais ça le gars des vues. Je ne sais pas, vous connaissez sûrement le gars des vues. « Ah, oh, c'est arrangé que le gars des vues, telle affaire. » Mais le gars des vues, il est en haut, fait que c'est encore plus cool. Mais c'est ça, il m'arrive beaucoup de choses, puis avec ça, j'ai appris à plus me décourager, puis à maintenant, quand j'ai une situation, une épreuve qui arrive devant moi, à place de désespérer, de déprimer, puis de dire « Ah, oh, comment ça, encore moi? » Bien, j'essaie de me dire « Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse là-dedans? » Puis comment je peux grandir dans ma foi à travers ces épreuves-là? Donc, c'est tout un changement si on parle de la fille d'avant. Je parlais du gars des vues il y a quelques instants, puis ça me fait penser à quelque chose. En fait, je ne viens pas d'y penser, je l'ai écrit, mais il faut que je fasse comme si je venais d'y penser. Mélissa, dans ma Bible, elle m'a écrit un verset. Elle m'a écrit le proverbe 17:17. Pour ceux qui ne savent pas, c'est « Un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. » Je trouvais ça intéressant qu'elle m'écrive ça, parce que tu sais, on est des amis, hein, c'est que c'est le concept qu'elle m'écrive ça. Puis j'ai commencé à lire ma Bible, puis je me suis rendu compte que je n'ai pas de page 651-652. Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que je veux dire, ben c'est dans les proverbes, 17. Fait que, dans le fond, si Mélissa ne m'avait pas écrit ce verset-là dans ma Bible, j'aurais pas su qu'il existait parce que je ne l'ai pas dedans. Il me manque une page dans ma Bible et je suis très sérieuse. Fait que j'ai vraiment trouvé ça arrangé que les gars aient vu de dire « Hey, c'est malade mental, je ne l'ai pas dans ma Bible » puis elle me l'a écrit. Insane. Fait que moi, je tritais vraiment quand j'ai vu ça. Fait que c'est des petites choses de la vie que je m'étonne encore. J'imagine que ça fait mon charme. Donc, j'ai appris énormément pendant mon baptême. J'aurais appris beaucoup plus de choses que je l'aurais cru dans ma préparation. Ça a confirmé ma foi, ça l'a renforci. Et puis, j'ai plus peur d'affronter ce qui va m'arriver parce que Dieu veille sur moi. Et voilà!
On va chanter le chant que Kim a choisi. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te thank you.
Guillaume Desauniers. Guillaume Desauniers, as-tu accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel et t'engages-tu à le suivre?
Oui!
Sur ta propre confession de foi, un petit peu, sur ta propre confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ouais, bonsoir.
Bonsoir.
Je pense que je vais laisser faire l'humour pour ce qui est de mon côté parce que je vais en finir au plus vite. Alors, moi, je suis née dans une famille chrétienne. Donc, depuis toujours, ben, je fréquente l'église ici avec ma famille. Mes parents nous ont toujours élevés, mon frère et moi, avec des très bonnes valeurs bibliques. On avait nos cultes familiales et nos histoires bibliques quotidiennement. Je me rends compte aujourd'hui qu'on a vraiment une bénédiction de starter dans la vie avec une bonne base comme ça. Alors, l'école du dimanche a toujours fait partie de ma vie, à chaque semaine durant mon enfance. Aussi, à l'adolescence, il y a eu U-turn avec Gab, puis en tout cas, on était tout le temps à l'église. J'avais toujours compris l'essentiel, j'avais accepté Dieu quand j'étais jeune. J'ai compris que Jésus était mort sur la croix pour moi, comme pour tout le monde ici. Qu'il avait payé la dette de mes péchés, ça, je croyais tout ça, mais ça arrêtait là. J'entretenais pas une relation personnelle active, si je pourrais dire, avec Dieu. Pourtant, quand on aime quelqu'un, on cherche à passer du temps avec cette personne, mais j'avais supposément toujours 1,5 million de choses à faire qui importaient plus avant de m'asseoir puis commencer à lire, déjà que j'ai haï ça lire. Fait que, après ça, j'ai eu parfois des doutes, mais tu sais, la foi, c'est un petit mot, mais des fois, c'est un peu dur à voir. Tu sais, c'est vraiment croire sans voir, fait que c'est pas toujours évident. Ça fait que la parole de Dieu, tout ce qui est écrit, c'est vrai. Ben, bon, les doutes n'ont pas duré longtemps parce que je me suis vite rendu compte que oui, c'est vrai. Bon, j'ai réussi à me mêler encore dans ma fille. Mais le fait de ne pas entretenir de relations personnelles avec Dieu, ça m'a amené à banaliser certaines choses que j'aurais peut-être pas nécessairement dû. Dans le fond, en juin passé, mais en 2009, ben, j'étais en relation avec un inconverti, puis je pensais que je réussirais à l'emmener au Seigneur. Il est venu une ou deux fois à des trucs d'église, mais c'était seulement pour me faire plaisir. Il n'était pas intéressé. Je cherchais l'amour, mais pourtant, j'avais l'amour de Dieu inconditionnel et quotidien. Mais j'ai tassé de priorité pour m'écouter moi. Pendant tout le temps que j'étais avec, j'ai jamais ressenti de paix dans ma tête. Seulement des moments de bonheur éphémère. Je savais que j'étais dans l'erreur et que j'accomplissais pas la volonté de Dieu. Au moins, j'ai pas arrêté de venir à l'église. J'ai toujours continué à venir quand même. Mais je chantais, mettons, mes amis plus distants, ou c'est peut-être moi aussi que je savais que j'étais dans l'erreur, fait que je m'éclipsais un petit peu. Puis, un jour, les tournures des événements m'ont poussé à réfléchir à ma situation, et là, j'étais au pied du mur. J'avais plus le choix, il fallait que je prenne une décision. Dieu nous laisse faire un temps dans notre folie, mais on peut pas être tiède. Soit que je le suis à 100%, soit que je vivais ma vie à 100%. Alors, je devais choisir soit entre ma propre volonté, mes désirs, ou bien arrêter tout puis suivre Dieu. Alors, au bout de quelques mois, j'ai mis fin à la relation. Je ne regrette pas du tout d'avoir pris cette décision-là pour le Seigneur et j'ai eu en quelque sorte une paix intérieure suite à ça. C'est des choses extrêmement dures à faire, mais pour Christ, ça n'a pas de prix et je chantais beaucoup plus joyeuse après ça. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait que je fasse. Et là, cet été, j'ai eu la chance d'aller au Camp Brochet pour la première fois de ma vie. C'était M. Virgin, le conférencier. Pendant cette fin de semaine-là, j'en suis vraiment sortie boostée. Ça a vraiment été une fin de semaine très enrichissante spirituellement. Ensuite, j'ai entendu parler qu'il y avait une autre conférence là-bas, je pense que c'était 3 semaines après. J'ai voulu y retourner. Encore une fois, j'ai vraiment apprécié ce temps-là, entouré de chrétiens et entendre parler de Dieu tout le temps. Disons que ça fait une énorme différence de côtoyer des gens qui connaissent Dieu et être entouré de gens qui ont les mêmes valeurs, le même amour. En revenant à la maison, l'idée de me faire baptiser me trottait dans la tête. Je voulais vraiment faire un pas d'obéissance pour le Seigneur, dire à tout le monde qu'il était le maître de ma vie, que sans lui, je suis rien. Je veux dépendre de lui et lui donner la toute première place qui lui revient. Il a toujours été là pour moi pendant les épreuves et je sais qu'il va être encore présent dans celle à venir. Je veux que ma vie soit utile pour lui et que tout ce que je fais puisse glorifier le Seigneur, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 6:20. Ça dit que vous avez été racheté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Depuis au moins 1 an, Dieu a mis à cœur de participer aussi à un projet, le projet Aquaba, et un voyage missionnaire en Afrique. Et depuis le début, il a ouvert les portes et il a grandement pourvu que je dois y aller. Il a vraiment pourvu et je sais que je dois y aller. Je ne sais pas par contre à quoi m'attendre là-bas, mais je sais que je me suis mise disponible à temps plein pour lui faire tout ce qu'il me demande. Ça commence maintenant. S'il a permis ça, c'est dans son divin plan pour moi. Alors, je pars dans 16 jours. À part le stress de tous les préparatifs du voyage, je peux dire que je suis vraiment heureuse d'avoir cette opportunité-là de pouvoir aller servir le Seigneur dans un pays étranger. Je suis contente qu'il m'utilise car je ne veux pas rester là sans rien faire pour lui. Alors, pour enfin conclure, juste un petit verset qui montre comment que je veux que ma vie présente et future soit pour Dieu. C'est dans Philippiens 1, 27. Ça dit « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. »
Laurie a demandé qu'on chante une chanson qui n'est pas connue à l'Assemblée. Donc, elle nous a demandé, moi et Raphaël, de le faire pour elle. Ça nous fait plaisir. Donc, on va y aller. Thank you.
Le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel et t'engages-tu à le suivre?
Oui.
Sur ta propre confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est parce qu'il y a quelque chose de spécial en arrière. Il y a un miroir ce soir, un petit miroir qui est apporté par les filles. Donc, vous comprenez que ça prend un petit peu plus de temps.
Bonsoir, merci d'être là à vous tous ce soir pour partager avec nous ce pas d'obéissance qu'on fait, toutes les trois. Je vais vous lire mon témoignage. Je veux partager avec vous mon cheminement spirituel d'hier à aujourd'hui. Comme la plupart des gens, j'ai été baptisée et j'ai été éduquée dans la religion catholique. Dirigée par les prêtres et les religieuses à l'école, ceux qui devaient me donner l'exemple. À mon adolescence, j'ai vu des choses entre un prêtre et une religieuse qui m'ont vraiment choquée. Et c'est à ce moment-là que j'ai tourné le dos à la religion. Mon premier mariage à l'église, le baptême de mes trois enfants, leur éducation religieuse reçue à l'école, ont été faits pour faire comme tout le monde, pour ne pas être pointés du doigt ou que mes enfants se sentent exclus des autres. Mais même si j'avais tourné le dos à cette religion, je croyais toujours en Dieu et j'ai toujours parlé de Dieu à mes enfants, mais à ma façon, sans les forcer à aller à l'église, sans leur parler des prêtres, des religieuses, des statues ou quoi que ce soit. Bien sûr, la vie nous réserve des joies et des peines. Et la plupart du temps, je demandais de l'aide à Dieu, quand ça n'allait pas. Je demandais très, très souvent, mais je remerciais très, très, très rarement. Je prenais pour acquis qu'il devait répondre à mes besoins. J'étais une personne très impatiente, assez rancunière. Je voulais toujours avoir raison. La vie m'avait appris à me battre. J'étais toujours révoltée contre tout, contre tout. J'ai blessé beaucoup de gens autour de moi par mes gestes et mes paroles. En 2008, mon deuxième mari, qui était musulman, s'est converti au christianisme. Il avait trouvé sa voie et je respectais son choix. Je le sentais calme, heureux, bien, et j'étais heureuse pour lui, mais pas question de le suivre dans cette voie-là. Bien sûr, mon mari voulait que je sois sauvée moi aussi. Alors, quand on se parlait au téléphone, car mon mari vit toujours en Algérie, très souvent les sujets de discussion étaient le salut, la grâce, Dieu, le Saint-Esprit et le Seigneur. J'aimais bien l'écouter, mais honnêtement, ça finissait par me déranger, car je payais 10 $ pour une carte d'appel qui durait une heure et j'entendais parler que de Dieu, que du Seigneur, durant au moins 45 minutes. Je lui téléphonais, il ne répondait même pas, il était en train de prier. J'étais devenue jalouse du peu de place que je prenais dans sa vie et de la trop grande place que Dieu prenait. Un jour, mon mari me demande, « Tu crois en Dieu? » Je répondis, « Bien sûr, j'y crois. Ça fait des années que je parle avec lui régulièrement. » Il me dit, « Mais tu sais, comme tu n'es pas sauvé, que tu es encore pécheur, alors tu parles dans le vide. Le fil de ton téléphone n'est même pas branché dans le mur. » Ou bien tu lui parles de l'autre côté d'un mur, il n'entend rien. Alors là, je suis entrée dans une colère. Comment ça, je parle dans le vide? Ça fait des années que je parle à Dieu. Et toi, le nouveau chrétien, tu viens me dire que mon téléphone n'est pas branché, qu'un mur me sépare de Dieu? Oh que non, ça n'allait pas être comme ça. Fait que mes recherches sur Internet m'ont conduit à l'Assemblée chrétienne du Cap. M. Lépine m'a proposé de rencontrer le couple Robert et Lucia Vincent. Et qu'avec eux, j'aurais réponse à mes questions. J'ai accepté de les recevoir chez moi. Difficilement, parce que je me sentais agressée dans ma bulle, mais j'ai accepté quand même de les recevoir et de les écouter. À la première rencontre, j'avais une tonne de questions, mais surtout la plus importante. Monsieur Vincent, depuis des années que je parle à Dieu, que je le prie à ma manière, mais dernièrement, mon mari, qui est nouveau chrétien, m'a dit que toutes ces années, je parlais dans le vide, que la connexion entre Dieu et moi ne passait pas, que mon téléphone n'était pas branché ou qu'un mur nous séparait. J'attendais sa réponse avec impatience. Monsieur Vincent était assis à la table, m'écoutait attentivement et il me dit, « Ton mari a raison. » Alors là, j'en croyais pas mes oreilles. Ça n'a pas fait mon affaire. C'est pas ça que je voulais entendre, mais c'est ça que j'ai entendu quand même. À partir de ce moment, je voulais en savoir plus. Car je voulais mieux comprendre mon mari. De toute façon, j'étais perdue. Alors, je ne pouvais pas avoir pire situation. Si apprendre apporte un plus à ma vie, pourquoi pas? Et je voyais Robert et Lucia se compléter. Et j'ai trouvé ça très beau. Puis je me suis dit, si je suis capable d'avoir cette harmonie dans mon couple, pourquoi pas? Après quelques rencontres, je me sentais mieux. J'ai commencé à venir au culte, à lire ma Bible, à discuter avec Dieu, de Dieu avec mon mari. Une phrase que Lucia me répétait continuellement, c'était « Lucie, mets ta vie au complet entre les mains du Seigneur et tu verras le changement. » À chaque fois, je lui disais « Ouais, OK, pas de problème. » Mais je vais lui remettre le trois quarts puis je vais en garder un quart. Comme ça, je vais me sentir moins égoïste. Mais j'avais absolument rien compris. En mars 2010, mon mari et moi avons reçu une très mauvaise nouvelle qui nous a beaucoup ébranlés. Et là, j'ai douté de Dieu. J'ai douté de mon nouveau cheminement, de lui avoir fait confiance. Je lui en voulais de nous avoir laissé tomber et je me suis sentie trahie. Jusqu'en mai 2010, je ne savais plus qui et quoi croire et j'ai boudé Dieu. Un soir, je me suis mise à pleurer. J'étais complètement perdue, seule, épuisée. Alors, j'ai dit, « Seigneur, OK, tu veux ma vie au complet? Tu veux t'occuper de moi? OK, alors prends tout. Je remets ma vie entre tes mains. Guide-moi, aide-moi, mais sauve-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. » J'ai prié comme jamais j'avais prié dans ma vie. Je me suis réveillée le lendemain, tellement calme, légère. J'avais une paix au fond de moi que je n'avais jamais connue, comme une charge en moins sur mes épaules. Depuis, j'ai appris un peu plus la patience, la tolérance. J'essaie de moins juger et de ne plus accuser. J'ai appris à mieux voir les choses, les situations, et à remettre tout entre les mains de mon Sauveur. J'ai continué à demander, mais surtout à remercier pour tout ce que je reçois, car je sais que rien n'est acquis. J'accepte de ne pas recevoir immédiatement ou de ne pas recevoir du tout. Mais je comprends que la décision est pour mon bien. Ma vie n'est pas plus facile ou difficile qu'avant, mais je sais que Dieu ne m'éprouve pas plus que je ne peux supporter. Aujourd'hui, je vois beaucoup mieux chaque moment de ma vie. Je ne me sens plus seule. Je sais que mon Sauveur est toujours présent, que je peux compter sur lui. Je n'ai plus cette peur de manquer de quoi que ce soit. Il veille sur moi, j'ai confiance. Je fais encore des erreurs, je vais en faire toute ma vie, mais je suis capable de demander pardon et de faire tout pour être dans le droit chemin. Maintenant, je trouve le plaisir de parler de Dieu avec mon mari. Je ne suis plus jalouse du temps que Dieu prend dans nos discussions. Bien au contraire, je trouve qu'une heure, c'est jamais assez. À mon tour, j'ai appris à mettre Dieu en premier dans ma vie, mais contrairement à moi, mon mari n'a aucune jalousie. Bien au contraire, il est très fier. Amen.
Chanter Dieu fidèle. On va commencer pareil, puis vous suivrez quand les paroles vont s'afficher.
Dieu fidèle, tu ne changes pas.
acceptez le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel et vous engagez-vous à le suivre, sur votre propre confession de foi, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Merci. Je ne suis claustrophobe, je ne veux pas rentrer là-dedans. Bonsoir. Est-ce qu'on devrait attendre les principaux intéressés? Je n'avais pas préparé une histoire en les attendant, par contre. On est venu entendre ce soir des tranches de vie, des beaux épisodes, des moments important dans la vie de chacun. Pour ceux qui ont déjà passé par cette étape-là, ils savent de quoi qu'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça change une vie. Pour ceux qui n'ont pas encore passé, je vous souhaite de passer à travers cela. Oh, c'est parfois difficile parler en public, mais c'est rien. Ce n'est qu'un petit moment à passer. Par contre, c'est un moment important parce que ce qu'ils ont vécu change du début à la fin, ce qu'ils ont vécu. À tes souhaits, mon frère. Je devrais dire trois fois à tes souhaits. C'est des vies qui ont bien terminé, qui ont eu une belle conclusion. J'aimerais qu'on regarde ensemble une autre tranche de vie. Elle vient de la parole de Dieu. C'est une vraie tranche de vie, c'est une histoire vraie. Et elle ne s'est pas si bien terminée que ça. Dans Marc, au chapitre 10, verset 17, c'est l'histoire du jeune homme riche. C'est une des histoires qui se termine plus mal qu'elle ne s'est commencée. Mais il y a une raison, et on doit en tirer des leçons de cette histoire. Dans Marc, chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il s'en alla tout triste. Un jeune homme brillant, il est dit dans les trois évangiles que c'était un chef, et c'était un homme riche, et c'était un jeune homme. Tout pour plaire, quoi. Un peu moins, là. Ben, qu'un peu. Mais c'est essentiellement, si on essaie de dresser un tableau de ce jeune homme-là, c'est un peu l'exemple d'un humaniste. Un humaniste, c'est un homme qui a une manière de penser qui met l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toute autre valeur. La pensée principale d'un humaniste, c'est quelqu'un qui recherche la bonté des motivations et des actions des hommes. Il va chercher toujours ce qui est bon. Est-ce que c'est la bonne motivation? Il va toujours mettre que c'est bon. Parce qu'il croit dans les valeurs humaines, au-dessus de toute autre valeur. On voit ça lorsque ce jeune homme vient vis-à-vis le Seigneur Jésus, il dit, « Bon maître, lui demande-t-il. » Cette manière d'interpeller Jésus, les Juifs ne l'interpellaient pas ça comme ça. Le terme « bon » ne pouvait pas s'adresser à un maître. Et Jésus le reprend, lui disant cela, « Il n'y a de bon que Dieu seul. » Et on sait que la bonté dans l'homme n'est pas toujours évidente. Même les meilleures actions sont teintées par le péché. Ça, on le sait. Mais les humanistes ont tendance à penser le contraire. Et un détail qu'il faut mentionner aussi, lorsque le Seigneur lui demande s'il respecte les commandements, il ne mentionne que 5 commandements. Et les 5 commandements ont rapport à leur relation avec les autres. Il ne parle pas de Dieu, de mettre Dieu en avant. Chaque commandement qui est mentionné, ce sont des commandements où ce qui a rapport avec son voisin, des personnes proches. Et selon l'échelle de valeur de ce jeune homme-là, bien sûr, je les ai respectés depuis ma jeunesse. J'ai tout fait ce que tu me dis depuis ma jeunesse. À quelque part, c'est un bon gars. Et Jésus aima cet homme. Il l'a aimé. Il a quand même vu un homme qui a fait les efforts nécessaires pour respecter les commandements de Dieu. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas mauvais en soi d'être humaniste. Ce n'est pas méchant. On en a aujourd'hui des exemples de personnes humanistes qui font de grandes choses. Mère Teresa, grande humaniste. Le cardinal Paul-Émile Léger. Le ministre Paul-Gérin Lajoie, qui a fait une fondation pour que les gens du tiers-monde puissent être enseignés. Bono, de U2. C'est un humaniste. Et il dépense beaucoup d'argent, il met énormément de temps pour que la justice dans les nations soit là. Il aurait voulu effacer toutes les dettes du tiers-monde. Et même plus près de nous, Joey Junot, le joueur de hockey, qui consacre beaucoup de temps, beaucoup d'heures, beaucoup d'argent dans le nord du Québec à aider les Inuits. Et il joue au hockey avec eux autres, puis il a dit, si tu as des bonnes notes, tu vas jouer au hockey. Si tu n'as pas des bonnes notes, tu ne joueras pas. Et puis là, il les enseigne à donner d'autres valeurs. Humanistes. Et c'est bien de regarder des humanistes comme ça et de dire, waouh, ils font des grandes choses. Ce jeune homme-là était de ce style-là. Il faisait certainement, il ne dérobait personne, il ne faisait point d'adultère. Il, Il ne faisait de tort à personne. Il honorait son père et sa mère. Il le faisait depuis sa jeunesse. Ils avaient de bonnes valeurs. Ce jeune homme-là avait des bonnes valeurs humaines. Mais malgré ces bonnes valeurs humaines, malgré que ce soit un bon gars, il en arrive à poser la question qui dévoile son cœur. La question importante. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'était sa manière à lui de le dire, mais la parole de Dieu a une multitude de manières de le dire. On pourrait dire, que dois-je faire pour naître de nouveau? Que dois-je faire pour être sauvé? Que dois-je faire pour avoir une relation éternelle avec le Dieu vivant? Que dois-je faire pour connaître le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Christ? Connaître d'une manière expérimentale. Que dois-je faire pour hériter des bénédictions célestes? Que dois-je faire pour être en communion avec Christ? Et finalement, que dois-je faire pour connaître la vraie vie, le vrai chemin et la vérité? Et j'en ai mentionné que 7, mais on pourrait en rajouter. On pourrait en mettre plusieurs. Et on pourrait faire toute la prédication sur juste la manière que Dieu, les mots que Dieu utilise pour nous montrer la vie éternelle. Mais ce jeune homme-là pose une question et c'est sa recherche intérieure. C'est son besoin essentiel de son âme. Malgré qu'il faisait toutes sortes de bonnes actions, pourquoi qu'il pose cette question-là? C'est clair dans son esprit que ses actions ne l'amènent pas à la vie éternelle. Il n'y a aucune de ses actions qui l'amène à la vie éternelle. Puis pourtant, il en a fait beaucoup depuis sa jeunesse. Et un petit bout de phrase. Que dois-je faire? Je fais beaucoup de choses. Je fais des milliers de choses, des centaines de milliers de choses. Qu'est-ce que je dois faire de plus? Et le Seigneur répond. Le Seigneur répond, il te manque une chose. Une chose, rien qu'une. Ça en fait des milliers que je fais. Je fais des milliers de choses, des bonnes affaires. Je fais des bons coups. Oh, j'en fais des mauvais, mais je fais beaucoup, beaucoup de bons coups. Je respecte la loi dans beaucoup de points de ma vie. J'ai la victoire. J'ai des défaites, mais j'ai surtout la victoire. C'est d'ailleurs ce que dit. J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il n'a pas dit qu'il en avait observé 2 sur 5 ou 4 sur 3. Je me suis trompé mathématiquement. Mais vous avez compris. Et remarquez que le Seigneur a donné comme réponse, il n'a pas dit... Il te manque une chose à faire. Il a dit tout simplement, il te manque une chose. Et c'est tout. Il te manque une chose. C'est quelque chose que je dois avoir et non pas quelque chose que je dois faire. Et malgré que le Seigneur ait dit, il te manque une chose, il lui en donne 2 à faire. Le Seigneur non plus, il n'était pas fort en mathématiques. Non. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Premièrement, Il n'a pas dit « Vends tout ce que tu as et donne-le-moi ». C'est un gourou qui dit ça. C'est des gens qui se mettent les mains comme ça puis qui se pensent très spirituels et disent « Tout ce que tu as, donne-le-moi puis tu vas être heureux ». Non, donne-le aux pauvres. Je veux même pas ton argent. Et suis-moi. En fait, ces deux actions-là, c'est une action en deux mouvements. Premièrement, enlève de ta vie ce qui empêche de me suivre. Et suis-moi. Enlève les barrières qui empêchent d'avancer. Et suis-moi. Voilà ce que le Seigneur demande à ce jeune homme. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre un pied en avant de l'autre? C'est ton argent. Débarrasse-toi-en, puis tu vas être capable de me suivre. Ah, et tout de suite là, si vous n'êtes pas habitué de venir ici, vous froncez les sourcils. Quand ça y est, ils vont tous me demander mon argent. Il y a une multitude de personnes qui ont accepté le Seigneur dans la parole. Et le Seigneur n'a jamais demandé de se défaire de leur argent. Pourquoi ce jeune homme-là en particulier? Parce que l'argent qu'il avait était un empêchement pour suivre Jésus. Ce n'est peut-être pas votre cas, ou c'est peut-être votre cas. Je ne sais pas. C'est vous devant Dieu. Mais un point qu'on a en commun avec ce jeune homme, c'est qu'il y a quelque chose que nous devons laisser si nous voulons suivre Dieu. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. Vous le savez peut-être, c'est quoi? Vous en avez peut-être un doute. Ou si vous ne le savez pas, vous avez peut-être à le demander à Dieu, « Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? » Laurie a dû faire un choix entre sa propre volonté et suivre Dieu. C'est ce qu'elle a dit dans son témoignage. Ma propre volonté et suivre Dieu. Et là, elle avait un choix à faire. Ma propre volonté et suivre Dieu. Ça peut être déchirant. Vous savez ce quel poids que ça a, sa propre volonté. C'est important. Ce que je veux. C'est quand même ce que je veux. Et ça fait des années que je veux faire ça. Mais je dois laisser ça de côté pour suivre Dieu. C'était l'argent de Laurie. Ou Lucie, qui voulait donner sa vie à moitié ou aux trois quarts. Ça va être suffisant. Mais elle le savait très bien que ce n'était pas assez. Le Seigneur voulait qu'elle donne toute sa vie. Elle ne voulait pas, le Seigneur ne voulait pas prendre sa vie. Le Seigneur voulait que Lucie donne sa vie, librement, avec un cœur sincère, avec un désir de lui donner. Et c'est ça qui est important. Remarquez que le Seigneur n'a jamais forcé le jeune homme. Il l'a laissé libre. Il a dit, tu dois faire ça. Maintenant, tu as le droit de ne pas le faire aussi. Et comme il a dit à Laurie et à Lucie, il a dit au jeune homme riche, « Suis-moi. » Avant, arrête-toi pas, enlève ce qui empêche d'avancer et suis-moi. Suis-moi. Kim nous l'a dit, suivre Jésus, lui faire confiance. Suivre Jésus, c'est lui laisser le temps. Lui laisser notre vie. Maintenant, il est le colocataire. Mais je dirais même que c'est lui le propriétaire. C'est moi le locataire. J'y ai donné ma vie et je n'ai rien gardé. Mais c'est pas dangereux de donner sa vie à un inconnu. c'est pas dangereux de faire ça, là. Hey, c'est ma vie quand même. Mais on ne la donne pas à un voleur. On la donne au Seigneur. On la donne à celui qui peut nous la redonner. Il dit dans Matthieu, « Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Il a la capacité de nous donner une vie meilleure. Il est capable de nous redonner une vie. Et une vie et demie même. Et une vie bien meilleure. Comment est-ce qu'on pourrait traduire « suis-moi » ? Et j'ai cherché et j'ai trouvé un verset qui est vraiment efficace. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et maintenant, si je vis dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est cela, suivre Christ. Le laisser agir dans nos vies, le laisser agir dans nos cœurs. Malheureusement, le jeune homme est reparti tout triste, n'étant pas prêt à admettre qu'il était pécheur, incapable de déterminer qu'il avait vraiment besoin d'un changement dans sa vie et que la seule solution était de faire confiance à Christ. Le drame, le malheur, c'est qu'il a préféré son argent à Dieu. Il a refusé l'invitation de Dieu de lui faire confiance. Il repart sans cette relation avec Dieu qui ouvre les portes de la vie éternelle. Vous savez, Dieu a un chemin. Dieu a une manière de faire. Puis ce n'est pas moi qui vais dire comment faire. C'est lui qui va me dire comment faire. Et c'est à moi à me conformer à ce que Dieu me demande. J'ai ce minimum de respect-là envers lui. Vous savez, ça fait quelque temps que j'ai donné ma vie à Dieu. Je me rends compte aujourd'hui que je suis encore pécheur. Je suis pécheur pardonné, mais je suis pécheur. Puis j'ai encore besoin d'un changement dans ma vie. Et je sais que la seule solution, c'est de mettre ma confiance en Christ. Mais ça prend un début. Ça prend un commencement. Peut-être que vous venez à l'Assemblée depuis des années. Peut-être que, jeune, vous venez comme Laurie depuis votre tendre enfance, puis là, vous venez, vous avez connu les milieux d'église, puis vous êtes bien, vous êtes. Il n'y a personne qui vole personne ici, il n'y a personne qui traite personne durement. Vous êtes bien, vous êtes confortable dans cette église, mais vous n'avez peut-être pas pris position pour Dieu encore. Vous n'avez peut-être pas mis votre confiance en Christ. Vous avez peut-être, vous préférez peut-être encore votre volonté propre. C'est votre décision si vous préférez garder votre volonté et faire comme le jeune homme riche, vous en retourner triste. Parce que vous aviez de grands biens. Ce n'est certainement pas ce que Dieu demande. Dieu voudrait que tout homme vienne à la connaissance de la vérité et en vienne à être en relation avec lui. Voilà ce que Dieu demande. Et Dieu vous demande une chose, de lui donner votre vie. Il ne veut pas la prendre et il ne la prendra jamais. Gloire à Dieu, ce n'est pas un despote. C'est un Dieu grand, bon et généreux. Et il va vous laisser faire. Il va vous attendre. Et faites attention. Ne jouez pas avec le feu. Et c'est le temps de donner votre vie à Dieu. Là, aujourd'hui, présentement. Il se peut que vous soyez dans ces situations-là. Que vous disiez à un moment donné, je ne sais pas si je devrais le faire. Je ne sais pas comment je devrais le faire. Ça se pourrait que vous soyez dans votre situation. Jeune, vieux, ça n'a pas d'importance. Mais si toutefois vous voulez mettre vous voulez faire le pas. Si toutefois vous dites, je suis tanné, maintenant je veux mettre ma vie en règle avec Dieu, on peut vous aider. On peut vous donner ce coup de main-là. On peut prier pour vous. Vous êtes peut-être venu avec quelqu'un qui est prêt à vous enseigner comme ça. Vous n'avez peut-être personne. Vous préférez venir voir quelqu'un que vous connaissez moins. Venez me voir. Je vais rester ici à l'avant. Je vais vous attendre. On pourra s'asseoir, on pourra jaser. On pourra prier ensemble. C'est ce que Dieu nous demande, de prier les uns pour les autres. C'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre. N'en cherchez pas d'autre. Et c'est le chemin, et c'est ce que Dieu vous dit ce soir à chacun de vous. Je ne vous connais pas personnellement. J'en connais juste une, personnellement. Mais Dieu, lui, veut vous connaître personnellement. Il veut cette relation-là. C'est à cela que Dieu vous appelle ce soir. Ne vous gênez pas. Venez me voir. Et on pourra discuter. On pourra jaser. Ne soyez surtout pas gênés. Votre vie éternelle en dépend. On va prier. Merci, Seigneur, car tu as un chemin parfait pour nous. Tu as cette vérité et ce don gratuit de ta personne sur chacun de nous. Seigneur, tu as préparé les cœurs à écouter ce message ce soir. Chaque personne qui l'a entendu ce soir est responsable maintenant de ce qu'il a entendu. Il ne pourra plus se présenter devant toi en disant « je ne savais pas ». Mais Seigneur, aide ces gens, aide Seigneur ces gens qui sont sur le bord de prendre une décision, qui ne savent plus, qui ne savent pas. Aide ces gens, Seigneur, à faire le pas qu'ils doivent faire vers la vie éternelle. Et aide-nous, Seigneur, à bien comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ouvre nos cœurs et ouvre leur cœur à eux pour qu'ils s'approchent de toi. Nous te remercions, Seigneur, d'être là constamment, d'être celui qui nous fait grandir, d'être celui qui nous donne une vie remplie. Fais-nous réaliser, Seigneur, nos véritables besoins et montre-nous la solution à ces besoins. Je te prie, Seigneur, je te rends gloire de ce que tu as fait dans nos vies. Et nous te prions, Seigneur, que tu le fasses dans la vie de ceux qui ne te connaissent pas. Par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant que la réunion se termine, les baptisés sont priés, venez en avant, et deux anciens, Trevor et Michel, vont prier avec vous. Et ensuite, on invite les gens à venir faire la file pour venir serrer les mains des nouveaux baptisés.
Donc, prions. On se lève debout. Priez. Quelle belle soirée. Quelle belle soirée. Vous avez tous un beau sourire d'en avant. Gloire à Dieu. C'est réjouissant, hein, les plus vieux dans le Seigneur, là, quand on entend ça, là. Dieu transforme encore des vies en 2010. Gloire à Dieu. Prions. Notre Dieu et Père, on est devant toi ce soir et c'est avec reconnaissance, action de grâce. Louange, adoration, Seigneur, merci, tu es un Dieu qui est compatissant, lent à la colère, riche en bonté, un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, un Dieu qui travaille dans les cœurs en 2010, un Dieu qui intervient d'une manière personnelle dans la vie des âmes, Seigneur Dieu. Et comme qu'on a entendu ce soir, nous voulons prier pour Kim, Laurie et aussi pour Lucie, que tu puisses mettre ta main sur eux, que tu puisses, Seigneur Dieu, leur donner, Seigneur, une marche pour toi dans ta grâce, que tu puisses les accompagner dans toutes les décisions qu'ils vont prendre, que tu puisses les entourer par derrière et par devant, Seigneur Dieu, que tu puisses faire d'eux, oui, les femmes de Dieu que tu veux qu'ils soient, Et nous prions pour eux, nous, la communauté chrétienne au Cap, nous prions pour eux ensemble ce soir, devant toi, Seigneur. Étends ta main bénissante sur eux, guide-les, Seigneur, et entoure-les de ta bonté, Seigneur. Donne-leur une sagesse spirituelle, un discernement spirituel qui vient de toi, Seigneur Dieu, afin de les guider dans ce pèlerinage terrestre dans lequel ils marchent avec nous. Ce soir, pour eux, ce n'est pas la fin, mais le commencement d'une belle aventure avec toi, Seigneur Dieu. Et nous prions pour eux d'une manière tout à fait spéciale ensemble, en ton nom et pour ta gloire, Seigneur Jésus. Amen. Amen.
Seigneur, quelle grâce que tu nous as témoigné d'être participants à cette fête. On veut encore te dire merci pour le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le salut qui se trouve en lui. On ne saura pas de cette parole, il ne salue en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Merci pour Lucie, merci pour Laurie, merci pour Kim. On prie que ta grâce les accompagne. Et Seigneur, s'il y a parmi nous ce soir quelques-uns qui ne te connaissent pas, tu es un Dieu qui est miséricordieux, tu es compatissant. On demande que tu puisses, dans ta bonté, dans ta miséricorde, te révéler à ces personnes afin qu'elles aussi puissent te connaître comme leur sauveur personnel. Et Seigneur, avoir la vie éternelle avant que ce soit trop tard. Maintenant, nous voulons aussi te remercier pour tes bienfaits. Merci pour cette collation qui nous attend et on te demande d'accepter nos remerciements. Tu pourvois à tous nos besoins. Nous sommes dans un pays d'abondance et nous voulons te rendre grâce. Et prions aussi pour le restant de cette soirée. Que ce soit vraiment, sois avec nous dans nos conversations. Bénis notre communion fraternelle. Nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.